Bonjour, c'est François Langlais. Bienvenue dans le podcast hebdomadaire de Langlais Co.
Bonjour à tous, c'est Catherine Mangin. Chaque semaine, je dialogue avec François sur les mutations, les évolutions qui résultent de la crise du coronavirus afin de mieux comprendre comment l'économie s'adapte au fil de la pandémie. Joe Biden multiplie les programmes de dépenses publiques depuis qu'il est arrivé à la Maison-Blanche il y a 3 mois. Alors, où en est-on exactement, François ?
En fait, il y a 3 plans successifs qui ont été annoncés par le nouveau président des États-Unis. D'abord, une relance classique. Bon, c'est vrai que quand il est arrivé, l'épidémie était encore très préoccupante. 1900 milliards de dollars. Et puis, quelques jours après, un programme qu'il a appelé programme d'infrastructure, 2300 milliards de dollars. Donc, il s'agissait non seulement de rénover les routes, mais aussi de préparer la transition énergétique, d'investir dans les transports en commun, le véhicule électrique, mais aussi d'ailleurs un certain nombre de choses sur la formation. Il n'y a pas que du dur là-dedans. Et puis, troisième volet, un plan d'aide aux familles. Celui-là, il est encore pas tout à fait défini. Il est a fortiori pas voté. Et lui porte sur l'éducation. Il s'agit d'aider les familles pour investir dans l'éducation de leurs enfants, non seulement pour l'université, mais pour le collège et le lycée. Ça serait entre 1500 et 2000 milliards au total. Ça fait donc plus de 6000 milliards de dollars en 3 mois, qui s'ajoutent à ce qui avait été décidé et dépensé d'ailleurs par Donald Trump, hein, notamment le grand programme de relance de 2020, et puis la rallonge décidée dans l'intervalle entre les deux présidences au tout début de l'année 2021. Au total, si on additionne tout ça, on arrive à 9000 milliards de dollars, ça fait 7500 milliards d'euros, bon, évidemment qui s'étagent sur les années à venir, mais l'essentiel de cette somme est quand même dépensé en 2020-2021. Le reste va s'échelonner sur la décennie qui vient. Au total, ça fait quand même un tiers du PIB américain, au moins. On n'a jamais décidé de dépenser autant sur une durée aussi courte.
Alors, est-ce que c'est l'épidémie ou est-ce que ce n'est pas seulement l'épidémie qui a déclenché ce mouvement ?
En fait, l'épidémie a été le déclencheur, c'est sûr, parce que justement à cause de la dépression économique qu'elle a provoquée avec le confinement. Mais ça serait une erreur de penser qu'il n'y a que cela qui joue. Parce que derrière ça, il y a un vrai changement de politique économique qui se profile, qui était engagé avant Biden et que Biden amplifie. C'est du bon keynésianisme. Hein. En fait, le président américain pense que désormais, c'est l'investissement public qui doit tirer l'économie américaine. Alors que c'était l'investissement privé depuis une quarantaine d'années, en fait, depuis Ronald Reagan. Pourquoi l'investissement public ? D'abord parce que il y a une période où la demande est un peu flageolante, justement à cause de l'épidémie. C'est sûr. Voilà pour la raison conjoncturelle. Mais il y a des raisons structurelles. La plus importante, elle est d'ordre politique. C'est que l'investissement public, il est moins inégalitaire. Il est même plus égalitaire, notamment s'il porte sur l'éducation, par exemple, hein, ou bien même d'ailleurs sur les infrastructures qui avaient été délaissées quand même très largement par les précédents présidents américains. Donc le moteur de la croissance américaine, ben, ça va être les dépenses de l'État, financées pour beaucoup par l'endettement de l'État, hein, et non plus les dépenses des agents privés. On le disait, changement complet de régime de croissance, hein, et aussi de mode de financement. Dans l'ancien, on baissait les impôts avec l'espoir justement que les entreprises allaient mobiliser les ressources suffisantes pour faire progresser la croissance. Dans le nouveau, c'est exactement le contraire. On augmente les impôts pour redistribuer le plus largement possible les bénéfices de cet investissement public. Et d'ailleurs, l'administration Biden a des projets fiscaux assez ambitieux et tout à fait contraires à ce qui s'est fait depuis une quarantaine d'années aux États-Unis, d'abord en augmentant l'impôt sur les sociétés, même en faisant la promotion d'un impôt minimal mondial, hein, et toutes ces questions vont se discuter dans les semaines qui viennent, et puis augmentation de l'impôt sur les revenus et sur les revenus du capital en particulier pour les ménages les plus fortunés. C'est d'ailleurs assez curieux parce que Biden reprend exactement le slogan de François Hollande, hein, taxer le capital comme le travail. On sait qu'en France, ça n'a pas eu des résultats tout à fait éblouissants en matière de croissance, mais c'est au moins le pari économique de l'administration Biden.
Alors, sur les dernières décennies, la croissance des États-Unis a été bien supérieure à la nôtre en Europe. Est-ce que le nouveau régime peut maintenir ce niveau d'activité ?
Écoutez, on peut le penser au moins à court terme, parce que les sommes mobilisées sont très importantes, vraiment très importantes. Mais alors, au-delà même de la mesure de la croissance, il y a sa nature. Et c'est vrai que la période libérale qui se termine a débouché sur une suprématie technologique incroyable de la part des États-Unis. Hein. Et notamment quand on compare les États-Unis États-Unis aux autres pays du camp occidental, les pays d'Europe. Dans quel domaine ? Dans l'espace. On en a eu encore la preuve ces derniers jours avec l'expédition d'une navette dans la station internationale, avec tous les projets d'Elon Musk, le patron de SpaceX, qui maintenant lance non seulement des satellites, mais aussi justement des vols habités. Il y a les GAFA. Et leur extraordinaire année révolue, à la faveur de l'épidémie certes, mais ils étaient prêts, hein, les bénéfices de Google, les bénéfices d'Amazon, etc. Et tous les programmes technologiques qu'ils ont sur l'intelligence artificielle, la reconnaissance faciale, etc. Dans la pharmacie aussi, hein, quand même, un laboratoire comme Pfizer, justement, a pu, même s'il n'est pas l'inventeur du vaccin qui porte son nom, mettre au service de la vaccination des capacités de production incroyables et sans beaucoup d'équivalents dans le monde. Alors, les puristes nous diraient, oui, ce sont des succès dans lesquels l'État a eu aussi sa part. Et en ce sens-là, on ne doit pas les attribuer seulement à l'initiative privée. C'est vrai que quand SpaceX est conçu, il fonctionne aussi avec des commandes publiques, mais quand même, les inventeurs de ces technologies, ce sont des entreprises privées, pour partie bénéficiant de recherches fondamentales et de commandes venant de l'État, mais quand même tenant le manche, quoi. Et c'est l'État qui est toujours à la proue de ces innovations-là, un petit peu comme c'était pendant les 30 Glorieuses. On a connu ça, et c'est tout à fait possible qu'on retrouve un régime un peu du même genre, avec une moindre rentabilité du capital, forcément, à cause de l'augmentation des impôts. Du coup, une moindre progression des cours boursiers. C'est vrai que les dernières décennies ont été éblouissantes et de ce point de vue un peu atypiques. Et puis, ça c'est plus positif, moins d'inégalités, c'est-à-dire une meilleure répartition du revenu au sein des classes sociales américaines.
Alors c'est une administration démocrate qui met en œuvre cette politique. Est-ce que ça veut dire que les républicains pourraient revenir en arrière si ils l'emportent aux prochaines élections ?
C'est la question. J'aurais tendance à dire qu'ils reviendraient en arrière un petit peu, mais pas complètement, parce que c'est l'esprit des temps qui a changé et finalement ces cycles transcendent les clivages politiques traditionnels. D'ailleurs, il faut bien noter que Donald Trump avait quand même anticipé. Il avait déjà justement fait une relance massive avec l'État... En première ligne, certes en transférant de l'argent aux ménages, mais quand même c'était l'État qui pilotait ça. Il avait aussi, on en a souvent parlé sur l'antenne d'RTL, mis en place des taxes aux frontières, même si alors au plan fiscal, évidemment, il avait disons une philosophie très différente de celle de l'administration Biden. Mais sur certains points, lui-même avait quand même préfiguré le retour de l'État. Et on voit ça aussi au Royaume-Uni, qui est assez synchrone au plan idéologique des États-Unis. C'est un gouvernement de droite qui est au pouvoir, hein, celui de Boris Johnson, c'est les conservateurs. Et on voit qu'il est tout à fait promoteur de l'investissement public, et on le voit investir dans des sociétés de haute technologie. Et puis on le voit aussi augmenter les impôts, et notamment les impôts sur les bénéfices des entreprises. Hein, le chancelier de l'Échiquier l'a annoncé il y a quelques semaines. C'est tout à fait inhabituel pour un gouvernement de droite, ce qui prouve bien que il est lui-même sensible aussi à ce changement de cycle idéologique.
Ce nouveau policy mix va-t-il influencer l'Europe continentale et notamment la France, hein, puisque c'est quand même une des questions qui se posent et on voit beaucoup de gens qui sont très très séduits apparemment par les thèses de Joe Biden.
C'est vrai. Il y a toujours une influence des changements idéologiques aux États-Unis, plus globalement d'ailleurs dans le monde anglo-saxon. Les idées neuves arrivent par l'Ouest toujours. Et nous, il nous faut toujours un petit moment pour d'abord les comprendre et puis ensuite les mettre en œuvre. C'est vrai qu'on voit d'ailleurs l'Europe a lancé des programmes de stimulation de la croissance très importants, beaucoup plus importants que ce qu'on imaginait pouvoir faire dans les 30 dernières années où c'était la philosophie de Maastricht qui prévalait. Aujourd'hui, tout ça a été jeté aux orties. Donc, c'est certainement le signe que l'Europe elle-même adopte aussi ces nouvelles idées. Alors c'est vrai que le cas de la France est intéressant, vous le disiez, tout le monde crie au génie quand on évoque Biden aujourd'hui, il fait la une des magazines, on le présente comme le nouveau Roosevelt, et on exhorte d'ailleurs le gouvernement Macron à lui emboîter le pas, notamment en matière fiscale. Suivez mon regard, ça veut dire, bah oui, Macron a baissé les impôts sur le capital avec la réforme de l'ISF, il est grand temps de revenir dessus et de faire rendre gorge aux plus riches. Ça oublie quand même une chose, c'est que notre point de départ n'était pas du tout le même que celui des États-Unis, et que Quand bien même on compare la situation de la France après qu'elle a baissé les impôts sur le capital et la situation des États-Unis après qu'ils ont augmenté les impôts sur le capital, on voit que la France conserve toujours une petite longueur d'avance. Donc, de ce point de vue, nous avons été, je dirais, bidenistes bien avant Biden. On a augmenté les impôts. Là encore, par-delà les clivages idéologiques, c'est la droite et la gauche qui l'ont fait. Et puis, côté relance de l'économie par fonds publics, et sur endettement de l'État, là aussi on a une certaine antériorité, je dirais même une certaine expérience, parce qu'on fait ça depuis 40 ans avec la régularité d'un métronome et avec des succès qui, il faut bien le dire, ne sont pas toujours au rendez-vous.
Vous pouvez retrouver cet épisode sur l'application RTL et sur toutes vos plateformes préférées.